Bon, après, il faut savoir que le bénévole qui s'engage, il faut qu'il soit présent. Hein, parce que c'est une responsabilité de l'événement, du coureur et de tout ce que cela peut impliquer si les bénévoles ne viennent pas le jour de l'événement. Donc, c'est très important. Et puis, sans bénévoles, pas d'événement.
Effectivement, que serait une course sans ces bénévoles? Ce sont elles ou eux qui s'agitent à un carrefour pour que nous puissions traverser en sécurité, qui nous chouchoutent au ravitaillou pour que nous ne manquions de rien, qui nous encouragent sur le parcours quand nous sommes au bout du rouleau. Et tout ça payé à coups de sandwich et de t-shirt. Mais le nombre de bénévoles, comme la banquise, font d'année en année. Les bénévoles sont de tous âges, de toutes catégories sociales, et sont animés par l'envie commune de faire sans obligation, à titre gracieux, comme le définit le Larousse. Être bénévole, c'est à la portée de toutes et tous. Alors, si nous nous disions qu'au moins une fois dans l'année, chacune ou chacun d'entre nous devienne le bénévole d'un jour. Il y a bien une course dans le coin à laquelle on ne participe pas en tant que coureur. Une course où on accompagne son conjoint ou sa conjointe. Finalement, ça coûte moins cher qu'un dossard et c'est aussi très valorisant. Juste une fois dans l'année, se mettre à la place de celles et ceux sans qui ces courses que nous aimons tant ne pourraient avoir lieu. Il va être aussi question de bénévolat dans cet épisode 2 de REDEC, pour lequel j'ai eu le plaisir d'accueillir Gilbert Toudic, président de l'association qui organise le premier UTM. Bienvenue dans REDEC.
Allez, compte à vous. 3, 2, 1, top départ.
Bonne course à tous, réchauffez-vous bien, profitez bien, amusez-vous bien.
REDEC, REDEC. Bonjour Gilbert. Alors tout d'abord, je te remercie d'avoir accepté cette invitation et de m'avoir accordé un peu de ton temps pour ce podcast. Cet épisode est donc le deuxième de la série et nous allons parler du premier UTMA qui partira le 27 juin de Helgoat. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler justement un peu de l'histoire et de la création de cette course? Comment t'es venu l'idée de créer un tel événement dans les Monts d'Arrée?
Voilà, donc merci Jean-Michel pour ton invitation. C'est très sympa d'avoir pensé à nous. Donc, moi, c'est Gilbert. Hein. Donc, c'est moi le président de l'association L'Ultra Trail des Monts d'Arrée, qui existe officiellement depuis un an maintenant. Donc, l'histoire de la création de l'Ultra Trail des Monts d'Arrée, de l'UTMA, c'est quelques coureurs. Une bande de collègues à courir de temps en temps en même temps qui voilà, on avait dit que c'était on avait un super terrain de jeu dans les Monts d'Arrée et donc pourquoi pas mettre en place un ultra trail dans les Monts d'Arrée. Donc et tout ça c'est un discours qui s'est passé qui date de 2018 parce que 2018 j'étais parti courir le grand raid de la Réunion, la Diagonale des Fous. Et donc c'est une bande de collègues là-bas. On décide entre nous, ben pourquoi pas se lancer sur le projet. Donc, revenu de la Diagonale des Fous, bon, voilà, l'idée était toujours là. On discute, on continue à discuter. Et j'étais parti en... Donc, la Diagonale des Fous, ça se passe en octobre de chaque année. Hein. Et en fin d'année, au mois de décembre, il y a un trail, une course nature qui se passe à Helgoat. Et une fois finie la course, on se retrouve devant un verre et puis on reparle avec des collègues de notre projet, donc des collègues du Helgoat cette fois-ci. Et très favorablement, nous ont dit oui, très intéressés par ce qu'on pouvait faire. Et comme on leur disait, voilà, nous, moi, j'habite les Monts d'Arrée, mais pas au cœur des Monts d'Arrée. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire découvrir les Monts d'Arrée, le cœur des Monts d'Arrée. C'est là où il y a les cinq plus hauts sommets de Bretagne. 384 mètres d'altitude, le Mont Saint-Michel et quatre autres points les plus hauts, le Roc Trévisel, Roc Bruse, Roc Trédudon. et Tachanka d'or, comme on dit. Et du coup, voilà, donc, et c'est là qu'ils nous ont proposé, ben, nous, voilà, on a tout ce qu'il faut sur Uelgoat. C'est un super site, on a tout ce qu'il faut au niveau infrastructure pour vous accueillir. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à se lancer, mettre les choses en place, créer une association. Et donc, c'est de là, qu'on a lancé le projet de créer l'association UTMA, Ultra Trail des Mandarins. Et donc, quoi mettre comme distance? La distance, l'idée, c'était pareil aussi, ça s'était passé à la Diagonale des Fous. Pour aller à la Diagonale des Fous, il faut des points. Il faut des points pour être qualifié, pour être retenu, voilà, parce qu'on ne peut pas aller à la Diagonale des Fous sans entraînement, sans avoir fait un certain nombre de, avoir un certain niveau d'endurance. Et donc, pour accéder à la course de la Diagonale des Fous, il faut des points. Donc, le minimum, c'est 85 points. Donc, 85 points, donc, les points par rapport au calcul des points, c'est un point du kilomètre, qu'on va dire. Ou alors, il peut avoir une course de 70 km avec 1500 mètres de dénivelé positif. Donc, chaque 100 mètres de dénivelé positif, vous récupérez un point. Donc, voilà, sur 1500 mètres, vous récupérez 15 points, ce qui fait qu'un 70 km plus 15 points de dénivelé positif, vous atteignez vos 85 points pour avoir une qualification, le droit de vous inscrire à la Diagonale des Fous. Et donc, voilà, l'idée, c'était de, ben, il fallait trouver des circuits, mettre en place. Au moins une course de 80 km, 80, 85 km. Voilà. Et puis voilà, le projet est lancé, on court, on court, on court dans les monts d'Arrée. Et donc, on s'est vite rendu compte qu'on pouvait très facilement mettre en place un ultra-trail. Même voilà, on pourrait faire une course de 100 km sans problème dans les monts d'Arrée, hein, parce que là, on va rester la course qu'on a mise en place, elle va rester du Uelgoat aux 5 crêtes des monts d'Arrée. Donc, ça reste quand même le côté est des monts d'Arrée. Hein, donc voilà. Et donc tout ça, l'association a été créée suite à ça. Donc c'est Et à la base, quelques coureurs, trailers, petite, longue distance, hein, parce qu'on n'est pas forcément sur de l'ultra-trail. Et puis voilà, donc le bureau mis en place, donc il fallait créer un président, mettre un président en place, et un secrétaire et un trésorier. Voilà.
Ça ressemble à d'autres histoires, je pense, de création de courses où une bande de copains se retrouve et dit, hey, chiche, on fait ça, on y va, on y croit.
Très rapidement, voilà, on a été en 2020, on a été dans le doute, mais je pense que comme tout le monde, on ne pensait pas que la pandémie allait continuer jusqu'à 2021. Bon, après, le confinement nous a permis quand même de travailler, pas forcément sur le terrain, parce qu'on ne pouvait pas se déplacer, on était confinés, hein, on était tous à la maison ou à respecter le kilomètre de chez soi pour s'entraîner, mais ça ne nous a pas empêchés de se communiquer, soit par téléphone ou soit par visioconférence entre nous, et du coup de travailler sur plein comment dire, de côté administratif, qui est très important, et déjà d'avoir des idées sur des conditions sanitaires qu'il faudra mettre en place, qui seront draconiens. Même si on pensait que ça allait, que 2021 serait un peu mieux que 2020, bon, les choses, on verra, hein, d'ici, on est à un peu plus de 2 mois de l'événement, donc jusqu'à présent, tout se déroule comme on le pensait. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris contact avec différentes communes, parce qu'on traverse quand même 11 communes, des Mandarins, du cœur des Mandarins. Pourquoi Huelguat? Le départ arrivé à Huelguat, c'est parce que Huelguat, c'est très représentatif de la région des Mandarins. C'est des sites merveilleux. Il y a plein de passages, des chemins déjà existants qui sont très agréables à courir pour les travailleurs. Je crois que même que le cœur de Bretagne a deux circuits sur la commune du Huelguat, deux circuits de trail permanents. Et comme l'association des lutins de l'Argoat sont impliqués dans la mise en place de l'Ultra Trail des Mandarins, donc ça nous facilite énormément au niveau tout ce qui est les locaux sur la commune du Huelguat, sur tout ce qui est administratif, tout ce qui est location, tout ce qui est matériel. Voilà, il faut savoir qu'il nous faudra beaucoup, beaucoup de matériel, que ce soit barnum, des tables, des chaises et tout ça.
Ouais, vous avez déjà l'appui d'une association existante sur place, quoi.
Après, on a élargi l'appui de d'autres associations, c'est-à-dire qu'on a contacté, on s'est contacté mutuellement parce que les échanges rentraient tous dans le même sens. L'association La Vie en Rose, l'association, c'est une association de Brest, la recherche contre le cancer pédiatrique. Donc, on fera un don à cette association qui sera présente avec nous. Et d'autres associations qui se sont jointes à nous, des associations de course à pied, de chasseurs, de randonneurs, une association équestre aussi de la Feuillée, là, qui est avec nous, qui est très, 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 comment dire, très impliquée au niveau de l'environnement au cœur des Mandarins. C'est une association qui travaille beaucoup dans le nettoyage des chemins aussi, donc ce qui est très important, voilà.
Et au niveau des parcours, du coup, alors tu parlais des plus de 80 km, est-ce que tu peux un peu nous expliquer justement, nous détailler les différents parcours qui sont traversés par la course? Je crois qu'il y a deux parcours. La présentation aussi, ce qu'il en est en termes d'inscription, parce que peut-être que certaines personnes se demandent, même si je sais que c'est un gros succès. Et après, la particularité éventuellement de chaque parcours, voilà, des choses qui sont à voir, tout ça, plus en détail.
Oui, donc une fois l'association a été créée, on a dans un premier temps, il fallait communiquer. Et donc on a créé une page Facebook, Ultra Trail des Mandarins, et qui en 3 semaines, on s'est retrouvé avec 1 000 abonnés. Et de là, on s'est dit à nous-mêmes, wow, il y a de l'attente ici quelque part. Donc voilà. Et donc, on a commencé à communiquer jusqu'au jour où on a communiqué sur qu'est-ce qu'on avait mis en place comme plateforme d'inscription pour la course. Et pareil, ça, au niveau des réseaux sociaux, ça a commencé à communiquer énormément. En 2 mois après, l'ouverture de cette page, on avait 2 000 abonnés. C'est ça, on s'est même surpris nous-mêmes et plein de questions. Plein de questions, plein de messages d'encouragement pour le projet aussi. Parce que jusqu'à, il n'y a jamais eu de. Il y a des trails dans les Mandarins, mais il n'y a jamais eu d'ultra-trail. De là. Une fois mis la page, la plateforme d'inscription en place, ouverte en début d'année, on se doutait que ça allait prendre sûrement des inscriptions seraient rapidement, comment dire, sollicitées par les coureurs pour s'inscrire et tout ça, parce que voilà, il y a plein de messages qui tournaient sans qu'on puisse répondre individuellement, qu'on va dire. Et même le responsable de la plateforme d'inscription commençait à s'inquiéter aussi, parce qu'il me disait que il avait peur qu'il y aurait un bug, parce que voilà, les gens mettaient sur c'est un exemple, hein, c'est qui comme on avait ouvert l'heure d'ouverture des inscriptions était à minuit, les gens mettaient leur réveil pour se lever pour s'inscrire. Donc, quand voilà, déjà là, je dis, si la personne a peur de ne pas pouvoir s'inscrire, c'est que voilà, ça doit causer derrière, quoi. Et du coup, moi personnellement, je suis resté devant mon écran le jour de l'ouverture, et le responsable de la plateforme d'inscription aussi. On était en communication directe au cas où s'il y avait un souci. Et donc, et là, on avait mis à 1 000 inscrits. On aurait pu mettre plus, mais on a voulu se fixer 1 000 par rapport aux conditions sanitaires, hein, parce que voilà, on sait pas. On a préféré, comme c'est une première édition, on a préféré rester sûr de nous et sûr que tout se passe bien dans un premier temps. Et donc, du coup. Dès l'ouverture, on a vu, il y avait une jauge, et dès l'ouverture, pouf, ça a commencé à bouger. Et en 1 heure de temps, on avait la moitié des dossards étaient partis. Ce qui veut dire il y avait il y avait 60% des dossards qui étaient partis sur le 40 km, et 30% peut-être rapidement. Ouais, non, ouais. Je crois que c'était 300 dossards en 1 heure sur le 40 km, et 200 dossards sur le 80 km. Et donc, on savait déjà que le 40 km avait un succès, parce que dès le lendemain matin à 7 h, il était complet. Et 2 jours après, le 80 km, dont il y avait 600 dossards de prévus, était complet aussi. On s'était donné, moi, nous, extérieurement, enfin extérieurement de ce qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux, on pensait, bon, si on est complet en 1 semaine, ce sera déjà bien. Mais là, en 2 jours et demi, complet, waouh, un grand succès pour nous.
C'est motivant, j'imagine, du coup, après, en termes de préparation, et de se dire que ben, la course rencontre son public et que visiblement les gens sont en attente d'un événement pardon, tel que celui-ci dans la région, quoi.
Oui. Après, c'est une première édition. Est-ce que voilà, on se disait peut-être que c'était peut-être l'effet de première édition qui pouvait faire ça aussi. On saura plus tard. Après, en ultra trail, bon, il y en a quelques-uns en Bretagne, mais il n'y en a pas énormément non plus. Souvent, les gens, puisque l'objectif de ce 80 km, c'est la course phare de l'événement, hein, de l'ultra trail des Monts d'Arrée. C'est de pouvoir s'inscrire dans des grandes courses mondiales. Voilà, et donc jusqu'à présent, beaucoup de coureurs étaient obligés d'aller à l'extérieur pour justement obtenir un certain nombre de points pour s'engager sur les très grandes courses mondiales.
Ben oui, parce que justement, tu parlais tout à l'heure de pouvoir glaner des points. Moi, j'ai en tête, par exemple, le fait de participer à l'ultramarin du golfe du Morbihan. C'est pourvoyeur de points, mais pas tant que ça, quoi, vu le relief et le nombre de points glanés est pas énorme non plus, quoi.
Oui, l'ultra trail l'ultramarin est fait partie de ces courses qui rapportent des points. Après, nous, on était plus dans la recherche. Je l'ai déjà fait, le trail de. Pas l'ultramarin, mais j'ai fait le trail du golfe du Morbihan. On n'était pas dans la même recherche. Nous, on était dans la recherche, bon, côté terre, hein, on est dans le côté terre. Côté paysage aussi, mais même si eux l'ont, hein, c'est pas. Mais après, nous, on était côté réserve naturelle aussi. Et comment dire, le cœur, la réserve naturelle de la Bretagne, c'est parce qu'on est dans le parc naturel régional d'Armorique. qui est très représentatif de notre Bretagne. Donc voilà. On était aussi dans la recherche d'un certain nombre de dénivelés aussi, quoi. Pas forcément du dénivelé difficile, mais du dénivelé sur des grandes côtes un peu interminables, qu'on va dire. On part tout en bas dans les monts d'Arrée pour monter tout en haut. À l'exemple, on va passer juste à côté de la chapelle du Mont-Saint-Michel de Brasparts, qui sera notre emblème de la course, hein, qu'on reverra quasiment tous les ans, sûrement.
Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des difficultés, des particularités des deux parcours, enfin, et justement les endroits qui vont être visités ou toutes ces choses-là. Du coup, tu parlais du Mont-Saint-Michel de Brasparts, tu parlais des cinq monts, en fait, qui vont aussi être traversés. Et quel autre lieu comme ça, un petit peu emblématique, ou quel autre lieu à voir vont emprunter ces parcours?
On aura la particularité d'avoir un site qui n'a jamais été traversé par aucune course, aucune rando jusqu'à présent. C'est le site du Kaolin. C'est les carrières du Kaolin sur la commune de Berrien qui a été réhabilité pour des projets en cours, hein, donc je ne peux pas m'avancer à la place de la commune de Berrien pour en parler. Il y a beaucoup de projets. Et c'est un site d'un sable blanc, et donc sur plusieurs hectares, et donc c'est un site qui a été racheté par la commune de Berrien et qui n'a jamais été traversé par aucune course ni aucune rando. Et il y a un lac au milieu de ce site-là, d'une eau transparente, un peu, c'est magnifique, hein, avec le beau temps là, avec comme aujourd'hui, là, c'est une eau bleue qu'on voit d'en haut. Et donc, on aura ce privilège-là de passer pour la première fois dedans. Après, il y a l'abbaye du Relecq, qui est une abbaye qui a été, comment dire, retapir, qui a été refait il y a un an environ, que c'est une abbaye exemplaire aussi. Ça, c'est sur la commune de Plogneux-Hormenez. Donc, c'est un site classique qui a été refait par le Conseil général. Vraiment emblématique, très joli passage aussi. Et donc, de là, après, on va directement vers le Roc Trait du Don, où là, il y aura des vues panoramiques sur une dizaine de kilomètres dans un premier temps pour aller sur les cinq crêtes les plus hautes de Bretagne, dont la plus haute, c'est 385 mètres d'altitude, hein, c'est ça. Et de toute façon, les cinq sont très, très proches, hein, ça se joue à de 380 à 385, donc ça se maintient. Bon, là, on a eu un peu pas de difficultés, on va dire, mais voilà, il a fallu expliquer notre projet. Parce qu'on passe de c'est une réserve naturelle donc qui est protégée et que donc c'est Natura Net 2000 aussi donc c'est tout un secteur où il n'y aura pas le droit de visiteurs donc ce sera que les coureurs mais j'espère que les coureurs auront plein les yeux qu'il fera super beau ce jour-là hein, parce que donc voilà et donc, on ira directement sur les cinq sommets, dont le dernier sera le Mont-Saint-Michel de Brasparts, où il y aura peut-être un peu de monde sur le site là-bas, mais parce que le jour avant, il y aura le Tour de France qui va contourner tout ce site du Mont-Saint-Michel aussi. Donc, il a fallu prendre aussi des contacts avec des agriculteurs qui ont soit des vaches, des moutons, des chèvres dans ce secteur-là, parce qu'il y a une transhumance qui se fait tous les ans dans les monts d'Arrée. Et donc, Comme il me disait l'agriculteur, bah, j'ai peur que mes moutons partent courir derrière les coureurs. Alors, je dis, oh, non, non, je dis, il n'y a pas à s'inquiéter. On passe souvent devant des terrains où il y a des moutons et tout ça. Nous, on n'aura pas d'hélicoptère au-dessus de nous pour faire frayeur à ces animaux. Hein. Donc, voilà. Donc, une fois expliqué, une fois qu'on a été sur le terrain pour voir si ça causait pas de problème, surtout. Voilà, il y a des liens qui se sont créés, et puis du coup, donc sur passage-là, ça va être magnifique. Ensuite, on va descendre sur les passerelles, qui longent le lac de Brennilis, les Bruyères. Et là, c'est encore comment dire, la communauté l'arrêt communauté a débloqué 20 000 euros, je crois, pour refaire toutes les passerelles pour l'événement. Ce qui est énorme, ce qui est encourageant pour nous, surtout quand on a puisque faut que ça reste praticable pour les coureurs, parce qu'il y a plusieurs passerelles qui étaient cassées, il y avait pas mal de travaux à faire. Donc, ils nous ont dit, on va débloquer 20 000 euros pour l'événement. Voilà, ce sera réparé. Donc, on aura des passerelles toutes neuves pour longer, rentrer dans le cœur des Bruyères, en dessous de Mont-Saint-Michel de Brasparts. De là où on peut voir beaucoup, beaucoup de photos du Mont-Saint-Michel qui sont tirées de là. Dans tous les réseaux sociaux actuellement, on voit plein de photos vues de ce cadre direction le Mont-Saint-Michel. Ensuite, donc on retourne vers l'antenne du Roc Trélidon pour descendre après sur La Feuillée. La Feuillée, une très jolie commune aussi où il y aura un passage d'une départementale, mais voilà, après tout ça sera mis en place. Il y aura des bénévoles partout dans tout ce qui est traversé de départemental, puisqu'on traverse plusieurs départementales quand même. Voilà, donc ça implique beaucoup de bénévoles aussi pour l'événement. Et ensuite, on sera déjà à moins de 10 km du retour pour aller sur Uelguat, où on passera voilà, à côté de la Roche Tremblante, tous les sites historiques de la commune d'Uelguat, le Champignon, le Gouffre, voilà. On a essayé de mettre le circuit à passer dans tous les sites du Uelguat. Donc ça, c'est le 85 km. Après, le 40 km, il va rester sur la forêt domaniale du Uelguat. On aurait voulu les emmener plus sur les crêtes aussi, le 40 km. Mais c'est uniquement les raisons sanitaires qui nous ont bloqués par rapport à des passages où il y aurait eu trop de coureurs au même moment. Et du coup, c'est pour les raisons sanitaires et le transport, parce qu'il nous fallait un moyen de transport aussi pour faire un départ déplacé pour aller sur les crêtes. Donc, on a été contraint de garder le 40 km sur la forêt domaniale qui est très, 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 mais qui passera sur la commune de Berlin, donc quand même sur le site du Kaolin. Donc, et de là, donc c'est 40 km pour 1200 mètres de dénivelé positif sur le 40 et sur le 85, normalement, on était à plus de 1 000 mètres de dénivelé positif aussi, mais on a été contraint de faire une bifurcation. Donc, on a perdu une bosse, on va dire, on perd un peu de dénivelé par rapport à un site protégé.
Bah justement, je reviendrai un petit peu après sur l'environnement. Je voulais juste savoir, pour terminer un petit peu sur les parcours, en termes de ravitaillement pour les coureurs sur le 40 et sur le 85. Est-ce qu'il y a, je ne sais plus si c'est de la semi-autonomie, s'il y a quelques ravitaillements en course quand même.
On a prévu des ravitaillements solides et liquides Sauf que voilà, par rapport aux conditions sanitaires, hein, toujours pareil, le coureur ne pourra pas se servir. On sera obligé d'avoir des bénévoles pour servir les coureurs, que ce soit en eau ou en solide. Il y aura des barrières mises en place pour que les coureurs ne se mélangent pas. Donc, par rapport au dossier préfecture, on a fait une présentation de différents scénarios suivant les conditions qu'on pourra trouver d'ici 2 mois. Donc, on a fait 3 présentations de scénarios différents pour que l'on puisse mener le projet à terme, hein. Les scénarios, c'est que voilà. Soit on laisse, les gens seront vaccinés, soit ils pourront se servir, soit ils ne pourront pas, soit on les servira, soit en eau, ce sera des packs de 20 litres là, qu'on mettra en place, où il y aura une personne qui donnera l'eau aux coureurs, soit dans des flasques ou des gourdes, ou soit des camelbacks. Voilà. On est en train d'étudier actuellement, puisque là, le dossier de préfecture, on l'a envoyé pour la fin du mois. Donc, de là, on verra qu'est-ce qu'il en est, sachant que la préfecture en elle-même n'a pas d'avance, ne peut rien nous préconiser officiellement. Ils ont 2 semaines d'avance sur les projets, ce qui va être mis en place dans 15 jours. Bon, j'espère qu'avec les beaux jours, ça va s'améliorer, tout ça. Donc, voilà. Après, on se prépare à mettre tout en place pour réaliser l'événement.
Bah, du coup, t'enquêtes sur les aspects, tu parlais des aspects sanitaires. Est-ce que au-delà de ça, vous avez prévu des choses? Alors, enfin, comme tu disais, vous n'avez pas toutes les informations encore, mais est-ce qu'il est prévu que le départ se fasse masqué, que les gens portent des masques au ravitaillement? Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des sanitaires à l'arrivée pour se doucher, enfin, tout ce genre de choses, ou pas du tout? Ou est-ce que vous êtes encore en attente justement de savoir ce qui va en être au fil des jours?
Pour certaines choses, on est toujours en attente de ce qu'on va devoir mettre en place, mais on sait d'avance que bon, les douches, je pense qu'on ne pourra pas les mettre en place. On pense que le masque sera obligatoire au départ. On a mis on a eu des questions sur pourquoi les féminines partaient plus tôt, mais tout ça a été, on avait anticipé pour réduire le maximum de personnes au même moment au départ, quoi. Quitte à encore, on sera peut-être obligé de modifier encore le départ, de mettre les filles en différé et puis les gars après. Mais ce qu'on a mis en place, c'était déjà de réduire un maximum de personnes au même moment, au même endroit, sur différents points, quoi. C'est surtout sur le départ, parce que c'est là. Bon, sur le 80, il y a 600 inscrits. Donc, l'effet de séparer les gars, les filles, déjà, ça réduit un peu le nombre de personnes au même moment. Puisqu'il faut savoir aussi, hein, il y a de plus en plus de féminines qui font de l'ultra-trail maintenant. Hein, donc, ce qui est bien, et d'un bon niveau d'ailleurs. Donc, on aura peut-être même des surprises, hein, on ne sait jamais, de faire partir une demi-heure avant. Une des favorites en féminine et un favori, aussi vite ils vont se retrouver à quelques minutes près sur l'arrivée. Donc après c'est pareil pour l'arrivée, voilà, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place. On sait déjà qu'on ne pourra pas que les mettre de ravitaillement comme on pourrait voir jusqu'à présent, que les gens se servent, ce sera sûrement un panier qu'on donnera aux coureurs à l'arrivée pour qu'ils puissent aller se ravitailler un peu plus loin, quoi. Mais bon, ça perd un peu de son charme, je sais, mais on sera obligé de mettre sûrement quelque chose de radical en place pour éviter toute contamination de cluster par la suite, quoi.
Pas de bière à l'arrivée, donc, non plus.
Voilà, j'osais pas le dire, mais maintenant que vous le dites, c'est exactement ça.
Dans le sac.
Voilà. dans le petit panier qui sera à l'arrivée pour aller se ravitailler. Hein. Ouais, ouais. J'ai l'eau, par contre, je vais juste faire une aparté sur l'eau. L'eau, ce sera de l'eau des Monts d'Arrée, hein, puisqu'on est en cœur des Monts d'Arrée. Donc, je fais une petite pub pour l'eau des Monts d'Arrée. Donc, on va rester sur des produits locaux. Hein, donc, tout ce qui sera dans les ravitaillements, ce sera des ravitaillements nommés par rapport aux sponsors qu'on a. Et donc, histoire de communiquer un peu sur nos sponsors aussi. Hein. Donc, et après, ben, je sais que tous les coureurs ont un pot de miel des Monts d'Arrée aussi, qui, je peux vous dire que, sincèrement, que c'est un très bon goût particulier, mais extraordinaire.
J'ai cru voir sur le site, d'ailleurs, que vous étiez pas mal à valoriser, justement, vos partenaires, qui ont l'air d'être vraiment des partenaires locaux. Je me trompe ou pas du tout? Enfin, parce que du coup, tu parlais notamment de les nommer lors des ravitaillements, tout ça, mais j'ai l'impression que ça vous tient à cœur de faire appel vraiment à des gens du secteur, quoi.
Oui, bah, beaucoup de nos partenaires sont, dès qu'on a lancé le projet, ils sont venus nous voir directement. Et voilà, ils ont dit, bah, nous, ça applique dans votre événement. Voilà, vous pouvez compter sur nous. Et donc, du coup, ben, ça nous a simplifié la tâche déjà de savoir que, niveau partenaire, qu'il y avait des gens qui nous soutenaient fortement. Et bon, après, en tout ce qui est local, on y tient. C'est parce que les Monts d'Arrée, c'est particulier. Hein. Comme je vous dis, le miel des Monts d'Arrée, c'est un goût particulier. Bon, après, on a l'eau des Monts d'Arrée, c'est pareil aussi. Hein. On veut rester là-dessus, mais on reste encore. Il y a plein de choses à élargir là-dessus. Hein. Je fais un petit appel en même temps, je profite de l'occasion. Parce que je connais les Monts d'Arrée, mais je ne connais pas tout. C'est tellement grand qu'il y a des fois des belles choses à découvrir dans le secteur. Hein. C'est pareil comme tout ce qui est. On va mettre en place un système de balisage qui sera sponsorisé par des commerces et tout ça de la région. Et ce sera un balisage réutilisable, parce que tout ce qu'on met en place au niveau, on va travailler beaucoup sur l'éco-responsable. Donc, tout ça, on préfère la première année mettre de la qualité et qu'on puisse réutiliser tout ce qui est rubalise, panneau et tout ça. Tout ça, ça va rester dans l'association pour les années à suivre.
Ben justement, c'était une de mes questions aussi, ce qui est les gestes ou ce que vous mettiez en place justement pour l'environnement dans le cadre de cet événement. Donc tu parles de la rubalise, pardon, réutilisable. Tu disais donc encore une fois que vous traversiez aussi le parcours, traversait des zones Natura 2000. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mettez en place? Je sais pas, le fait de devoir utiliser des gobelets réutilisables, certainement, des sacs, je ne sais pas si les lots sont donnés dans des sacs également réutilisables ou biodégradables, voilà, enfin, tout ce genre de choses.
Déjà, dans notre objectif zéro déchet, donc déjà, on n'utilise pas d'affiches, pas de flyers, du coup, on n'aura pas de gobelets jetables non plus. Les gobelets, ce sera des gobelets réutilisables. Chaque participant sera dans l'obligation d'avoir son gobelet. Et donc, tout ça dans l'objectif d'issue d'avoir un trail éco-responsable. L'objectif, c'est de pouvoir ensuite. Notre projet, c'est de faire un bilan carbone à la suite du trail pour investir dans tout ce qui est l'environnement, le reboisement. On travaille là-dessus. Et pareil aussi, hein, on a mis en place, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes qui le font maintenant, c'est un système de covoiturage pour éviter tout déplacement individuel sur plusieurs centaines de kilomètres des fois. Donc, c'est vrai que la course sera façon orientée vers le territoire, l'environnement et tout ce qui est réutilisable. Mais si on peut aller sur un zéro déchet, ce sera très satisfaisant. Après, concernant les sacs et tout ça, on n'a pas vu, mais ce sera de l'éco, de biodégradable. Hein. On restera là-dessus, sur mais vraiment tout ce qu'on peut.
Après, on sait bien que c'est pas évident non plus parce que des moments comme les ravitaillements, c'est assez pourvoyeur de déchets, mais en même temps, c'est compliqué, surtout avec en ce moment les conditions sanitaires. On peut pas mettre une tonne à eau avec de l'eau qui coule au robinet pour que les gens aillent se servir. Ça va pas être possible. Donc, on imagine bien qu'il y a des choses
Rien
qui
que
vont
dans
être
les
compliquées.
ravitaillements, on mettra un système de tri sélectif. Il y aura plusieurs sacs, donc suivant le déchet, il y aura plusieurs. On a prévu trois sacs de couleurs différentes pour le tri sélectif directement à chaque ravitaillement.
C'est déjà un bon début en attendant des années meilleures au niveau sanitaire pour réduire encore les déchets au maximum. On imagine bien que cette année, ça doit être un peu compliqué. On arrive à la fin. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, si tu as parlé un peu de tout ce dont tu voulais parler.
Au niveau des dons, donc je reviens, donc on va travailler la vie en rose, la recherche contre le cancer pédiatrique. Après, on va faire aussi, on va travailler avec tout ce qui est, enfin, le terroir, donc les écoles d'Iran, la langue bretonne, qui nous tient à cœur aussi, surtout dans ce secteur-là, voilà, c'est le, enfin, moi qui suis du milieu, la langue bretonne, c'est sacré pour moi. Après, on va travailler aussi avec Kundi et puis Team Reader Tattoo. C'est des associations de personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, donc qui nous tient à cœur aussi parce que c'est des gens qui ont une envie, le sport, c'est primordial, donc qui seront présents avec nous aussi. Et on va travailler avec l'association La Protection Civile aussi, voilà, qui actuellement n'a pas beaucoup d'événements. Donc eux sont très contents de travailler avec nous aussi, parce que du coup, ça leur permet de faire un recyclage au niveau de tout ce qui est premier geste de secours, tout ce qui est bénévole au niveau de la protection civile aussi. Hein.
Et juste pour une petite question sur les assos dont tu parlais, la vie en rose, je crois que du coup, si je me trompe pas, il y a une partie des frais d'inscription qui sont reversés à cette association.
Oui.
C'est ça? Et les autres associations dont tu parlais, liées au handicap, quand tu dis que vous travaillez avec, c'est-à-dire que vous reversez aussi une partie des frais d'inscription ou ils sont investis plutôt dans l'organisation ou...
Ils sont investis dans l'association, dans l'organisation, mais tout ce qui est École D1 et Team Reader Tattoo et Kundi. Donc, on va leur donner une part. Voilà, je ne sais pas sous quelle forme encore, parce qu'à la base, ils ne nous demandent rien, mais je pense que voilà, il faut les encourager, il faut les motiver, il faut. Après, je ne sais pas si ce sera matériel ou financier le don qu'on fera, mais voilà, on ne peut pas rester neutre à ça, à mon avis. La vie en rose, donc on va leur faire un don, oui. Et en plus, pour augmenter le don, on a mis en place une vente de sweats et de t-shirts donc nous on gagne rien mais on vend là donc tout ce qui est bénéfice pour les sweats et les t-shirts ira à l'association La Vie en Rose, sachant qu'on a déjà vendu plus de 200 t-shirts et sweats, même plus que ça. Et donc, je crois que au niveau des bénéfices pour l'association, elle sera vraiment conséquente par rapport à l'organisation et tout ça. Sachant que depuis, il y a d'autres personnes qui nous demandent d'acheter des sweats. Donc, je crois qu'on a mis en place au niveau de la plateforme d'inscription un lien spécial pour acheter des suites.
Mais du coup, c'est ce que j'allais dire, c'est que pour avoir le fameux t-shirt finisher, il faudra payer, du coup, ou le sweat.
Non, le finisher, c'est le pot de miel. Le suite et le t-shirt, c'est une option.
Ouais, ok.
Pour la vie en rose, voilà, ça,
Ok.
c'est un suite de bonne qualité.
Mais c'est important de le souligner aussi, du coup, que les gens comprennent que, ben voilà, comme tu disais, le pot de miel pour les finishers, ce qui est très bien d'ailleurs, puisque des t-shirts, on en a tous tant que tant. Mais du coup, si on veut faire un geste, eh ben de commander le t-shirt tout le suite de l'événement, ça participe à abonder pour l'association La Vie en Rose.
Voilà, exactement, c'est exactement ça. Et donc, La Vie en Rose investit après sur une éducatrice pour les enfants, pour faire mettre les enfants hospitalisés à faire du sport un petit peu. Voilà, c'est pour le financement d'une éducatrice spécialisée en milieu hospitalier. Voilà.
Très belle initiative. En off, juste, je sais pas, mais en off, tu me disais que vous recherchiez toujours un peu des bénévoles également pour vous aider sur l'événement.
Oui, sachant que pour la bonne organisation, il nous faut environ 150 bénévoles sur toute une journée, hein, parce que le 85 km, le premier départ est à 5 heures du matin. On pense que, voilà, on se fixe l'événement, voilà, on a mis des barrières horaires, mais ça va être sur une vingtaine d'heures pour le dernier, à quelque chose près. Voilà, c'est difficile de savoir sur une première édition comme ça. Effectivement, il nous faut, on est toujours à la recherche de bénévoles. Donc, si vous connaissez du monde, voilà, des accompagnateurs prêts à donner un coup de main, voilà, on est toujours preneur. Après, bon, voilà, il y a juste une déclaration à faire au niveau de pour nous et pour la préfecture aussi, hein, puisque on peut pas mettre n'importe qui à faire signaleur sur une route pour qu'elle soit en possession de son permis, hein. Parce que voilà, une personne qui est signaleur doit savoir le code de la route qu'on va. Et donc, du coup, voilà, on a fait appel à des différentes associations, des différentes communes là où on passe. Il y a même des communes qui ont mis en place des interassociations. Donc, sachant que on a pris exemple sur d'autres associations là-dessus, c'est on va payer les bénévoles. Et pas payer le bénévole directement, il faudra qu'il fasse partie d'une association. Donc l'argent sera 15 euros pour une amplitude de 4 heures de présence de bénévolat. Donc ce qui peut monter vite pour différentes associations, parce que comme on sait que les associations sont actuellement plus ou moins beaucoup d'entre elles en sommeil. Le TMA, voilà, pour chaque bénévole d'une association, on versera 15 euros pour 4 heures de présence.
Juste pour être un petit peu précise, ce ne sont pas les bénévoles qui sont payés, mais c'est que leur temps de présence est valorisé au niveau de l'association. C'est un don que vous faites après à l'asso, quoi.
À l'association, voilà. Et je sais qu'il y a plusieurs associations, inter-associations, suivant les communes, qui sont en train de se mettre en place justement pour. Pour ça, on a mis en place un fichier bénévole. Voilà, il suffit de demander. Et puis, l'association et des monts d'arrêt. Enfin, le mieux, c'est que ce soit avec des personnes des monts d'arrêt qui connaissent le secteur. Hein. On a eu plusieurs communes qui nous ont dit qu'ils mettaient en place de là, pareil aussi. On va faire des réunions pour se présenter au niveau de ces associations-là, dans différentes communes, pour venir en aide un peu au projet de ces associations. Mais c'est toute association confondue. Hein. Ça peut être un club de troisième âge qui veut être. Il y a une route qui passe devant chez lui, et puis hop, lui, il lui dit voilà, moi, je m'occupe de la route, voilà, on se fera un relais entre bénévoles, et puis voilà. Mais bon, après, il faut savoir que le bénévole qui s'engage, il faut qu'il soit présent, hein, parce que c'est une responsabilité de l'événement, du coureur et de tout ce que cela peut impliquer si les bénévoles ne viennent pas le jour de l'événement. Donc, c'est très important. Et puis, sans bénévoles, il n'y a pas d'événement. Donc, sachant que, voilà, après, pour les bénévoles, pareil, on leur donne un t-shirt, on leur donnera un casse-croûte le jour de l'événement. On fera sûrement, mais après, ce sera plus à voir par rapport aux conditions sanitaires de retour, si on pourra faire un repas festif pour. Regrouper ça et puis se retrouver sous d'autres conditions et puis en fin de compte pour pouvoir que les bénévoles reviennent d'une année sur l'autre, ce serait encore mieux quoi. Après je reviens sur notre événement parce que là on fait départ arrivée et Elguat. Tous les ans on changera de commune de départ arrivée. On est sollicité déjà pour sur plusieurs communes pour nous accueillir sur les prochaines années. Donc, si l'événement se fait cette année, donc ce sera Uelguat. Et la commune de Comana nous a sollicité pour l'année prochaine. Donc, si l'événement ne se fait pas, bon, on gardera Uelguat l'année prochaine. Mais autrement, ce sera fortement la commune d'Uelguat, de Comana, pardon. Qui nous accueillera pour l'année 2022. Mais voilà, on restera dans tous les cas au cœur de Mont-d'Arrêt. Pour ceux qui ne connaissent pas Uelguat, c'est au pied des sommets des Mont-d'Arrêt. On fera en sorte que les deux distances, là, par contre, aillent sur les crêtes des Mont-d'Arrêt. J'ai tout dit. Hein.
C'était juste si tu avais un dernier mot à dire, du coup, voilà, pourquoi il faut venir faire l'UTMA? Pourquoi c'est la plus belle course pour toi, l'UTMA?
Pourquoi venir à l'UTMA? Ben, déjà, pour découvrir les monts d'arrêt, le cœur des monts d'arrêt, il y a plein de circuits. On m'a demandé déjà de transférer les circuits, mais je ne peux pas le faire parce que on passe très 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 peu, mais on passe quand même un petit peu sur des communes, sur des propriétés privées. Mais dans l'ensemble, le circuit, les deux circuits seront praticables toute l'année pour ceux qui veulent le faire. Alors juste que sur la commune du Uelguat qu'on passe une partie privée et actuellement le site des Kaolins n'est pas ouvert au public. Donc ce sera déjà cette découverte là. Après c'est des objectifs à atteindre. On a plein de coureurs qui n'ont jamais fait 40 km ou 80, donc ce sera des premières pour eux et c'est un surpassement de soi-même. Beaucoup de personnes, ouais, mais voilà, c'est trop long pour moi. Et en fin de compte, j'ai le cas de plusieurs messages. Je me suis inscrit sur le 80 parce qu'il n'y avait plus de place sur le 40, mais je suis content parce que voilà, je vais atteindre, j'espère, mon objectif d'un 80 km Après, pourquoi venir dans les monts d'Arrée? Ben pour découvrir le territoire. Les monts d'Arrée, c'est un vrai labyrinthe. Il y a plein de chemins partout. Mais vous n'aurez pas un 80 km. Bon, après, il y a le roc des monts d'Arrée qui est très, très intéressant aussi. C'est du VTT, là, par contre. Les circuits ne sont pas forcément praticables par des VTT. Voilà. Après, on a cherché des passages impraticables pour des VTT. Les pointes, les sommets des monts d'Arrée ne sont pas accessibles à un VTTiste, à moins de poser son VTT et d'aller au sommet. Donc là, le coureur pourra vraiment aller sur la pointe. Ensuite, les monts d'Arrée, c'est une première édition. Depuis des années et des années, beaucoup de coureurs l'attendaient. Même certains ont voulu organiser, mais c'est pas facile. Il faut être une bonne équipe soudée, de bande de copains, voilà, à partager la même passion et de l'ultra. Et dans le Finistère, il y a un ultra trail seulement. Nous, on sera le deuxième. Sauf que l'autre n'est pas dans les monts d'Arrée. Les monts d'Arrée, c'est emblématique de tout ce que la Bretagne peut représenter au niveau réserve naturelle, Natura 2000, paysage. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, allez sur les réseaux sociaux, vous verrez plein, plein, plein de super magnifiques photos, que ce soit dans tous les temps, qui pleuve, qui neige. Le coucher du soleil, on a eu plein de photos, de magnifiques photos du coucher du soleil ou du lever du soleil dans les monts d'Arrée. C'est vraiment atypique, exemplaire à tout ce qui peut représenter le mont d'Arrée dans notre région. Au niveau de terroir, comment dire, c'est pour ça qu'on va rester travailler au maximum avec des produits locaux. D'une année sur l'autre, on changera pour valoriser au maximum différents producteurs au niveau des circuits courts aussi. Et puis, du coup, nous, de notre côté, on s'engage aussi il y a beaucoup de chemins qui ont été abandonnés, qu'on va réouvrir avec d'autres associations pour encore élargir les différents circuits qu'on peut retrouver, qu'on va mettre en place encore et dans les monts d'Arrée. Jusqu'à présent, un coureur me disait qu'il avait du mal à aller courir dans les monts d'Arrée parce qu'il ne connaissait pas les monts d'Arrée. Il avait toujours peur de se perdre. Et je peux te confirmer, il y a de quoi se perdre. Et l'effet de mettre un trail, un ultra même, en place, les gens, on a bien vu sur les réseaux sociaux, sur notre plateforme d'inscription, que les gens étaient vraiment, vraiment dans l'attente. Après, là, si on va rééditer en 2022, par rapport aux conditions sanitaires, on risque d'augmenter le nombre d'inscriptions. Parce que voilà, là, c'est par rapport les 1 000 places. Et voilà, on a voulu mettre les choses bien en place pour nous, au niveau organisation. Parce que 2 000, si on aurait mis 2 000 personnes, il faut pouvoir les accueillir. On n'accueille pas 2 000 personnes comme ça. Et comme je disais, on prend un peu copie du Tromenezari pour délocaliser l'arrivée, le départ des prochaines années à venir.
Le Tromenezare, pour les non-connaisseurs, qui est une rando qui se tient dans les monts d'Arrée.
Voilà. Donc, il y a trois grands événements dans les monts d'Arrée. C'est le Tromenezare, c'est plus pour l'école du Rhin. C'est l'association de l'école du Rhin qui organise, qui attire chaque année de 6 à 8 000 participants. Le roc des monts d'Arrée, c'est des circuits VTT qui sont mis en place. Il y a entre 10-15 circuits, dont jusqu'à 150 km dans les monts d'Arrée, qui sont mis en place. Mais là, Le départ et arrivée, c'est tout le temps à Uelgoat. Et donc, nous, maintenant, le trail des Mandarais, c'est pour les coureurs à pied, trail. La première année, on a préféré être, maintenir à 1000, quitte à relever le nombre de participants à l'événement dans les années à suivre. Mais voilà, après, il fallait bien faire une première année sobre, on va dire, et qui nous a été un succès, mais qu'on n'a pas voulu augmenter la plage du nombre de participants par mesure de sécurité pour nous, quoi.
Je pense que les coureurs comprendront ça assez aisément.
Oui. Bon, après, voilà, il faut toujours faire une bonne première année. Que tout le monde soit satisfait dès la première année. On travaille aussi avec une association de photographes de l'Indivisio qui sera présente pour notre événement. Donc, vous aurez sûrement l'embarras du choix de récupérer des photos après on est en projet, je suis en train de mettre en place un site internet qui est en cours, j'espère qu'il sera fini pour l'événement. Et du coup, de là, après, on mettra des liens pour pouvoir récupérer des photos. Donc, c'est des photographes bénévoles qui sont dans cette association-là. Et donc, vous allez pouvoir récupérer des photos. Après, on a mis en place aussi j'ai pas dit, un chronométrage, donc il y aura une puce sur chaque dossard, et donc il y aura des pointages dans différents points qu'on n'a pas qu'on gardera pour nous. Donc le coureur peut couper, mais du coup s'il loupe des pointages, il sera pénalisé systématiquement. Et donc les différents pointages, sur le 80, je crois qu'il y aura quatre pointages à faire, pour qu'on sache où sont les coureurs, que les accompagnateurs pourront suivre les coureurs qui seront présents. Et donc, et à l'arrivée, il y aura un grand écran pour que, voilà, que tous les coureurs pourront voir avec leur classement, et qui sera accompagné d'une vidéo pour valoriser nos sponsors aussi. Donc voilà, rendez-vous le 27 juin. Donc c'est le lendemain du départ du Tour de France qui part de Brest, qui descend sur Quimper, qui remonte dans les Mandarais. Dont l'arrivée sera à Landerneau. Le dimanche 27, le Tour de France part de Pérouse, dont l'arrivée sera à Mur de Bretagne. Mais vous aurez le temps de venir courir le matin dans les monts d'Arrée pour pouvoir aller ensuite dans l'après-midi à Mur de Bretagne voir l'arrivée du Tour de France.
Pour ceux qui courent le plus vite.
Non, le 40 km, ils seront
C'est ça sur le
arrivés.
40, ouais. Ok. Eh bien écoute, merci Gilbert, merci pour toutes ces informations. J'espère bien sûr que cette première édition pourra avoir lieu. Moi, je mettrai tous les contacts et toutes les informations. Alors pour les inscriptions, même si ça ne sert pas à grand-chose, mais si les gens veulent s'inscrire sur liste d'attente en tout cas, je mettrai tout ça sur la page Facebook de Redec. Et puis, il me reste
Sachant
à...
que oui, il y a une liste d'attente, donc je fais juste un aparté par rapport à un message que j'ai reçu hier, justement, un coureur qui met son dossard en vente. Donc c'est le premier coureur qui est en liste d'attente qui aura le message pour le rachat du dossard. Mais sauf qu'il a 24 heures pour répondre s'il accepte ou pas de racheter. On a eu un message, une personne qui avait loupé les 24 heures, justement. Mais bon, voilà, après, il faut juste savoir qu'il y a 24 heures pour pouvoir racheter le dossard, et que c'est le premier qui est sur la liste d'attente qui reçoit le message pour le rachat. et que le rachat se fait uniquement sur le prix initial de vente.
Et via le site d'inscription Nextrun.
Voilà, via le site d'inscription Nextrun qui Vincent Labatte qui gère tout ce qui est notre plateforme d'inscription au niveau de tout ce qui est certificat médical. Voilà, c'est lui qui s'occupe de la gestion de tout ça, de tout ce qui est problématique. Bon, il y a des petites erreurs qui se passent, voilà, il y a des petites choses qui peuvent arriver. Donc, c'est lui qui gère en cas de déménagement d'un coureur aussi, parce qu'on va envoyer tous les dossards vont être expédiés quelques semaines avant, en début janvier, là, hein. Non, début juin, pardon, seront expédiés à domicile pour éviter tout ce qui est regroupement, toujours par rapport aux conditions sanitaires. Donc, tout ça va être fait en début juin. Les coureurs vont recevoir leur dossard avec leur puce. À domicile.
Ok. Eh bien, écoute, c'est parfait. Il nous reste qu'à te souhaiter à ton équipe et à toi-même bon courage et puis bonne chance pour cette première édition, en
Merci
espérant
Jean-Michel
qu'elle remplisse
de ton
toutes vos
invitation.
attentes. Bah, je t'en prie, avec plaisir. C'était bien sympathique.
Ouais, tout à fait, d'accord avec toi. J'espère que j'ai été à la hauteur.
Quant à vous, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce deuxième numéro de Redec vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager ou à mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes de diffusion. Vous pouvez aussi m'envoyer un message pour me dire ce qui vous a plu ou pas. Si vous êtes organisateur de courses, club, professionnel intervenant directement ou indirectement dans l'univers du trail et que vous souhaitez faire parler de vous, contactez-moi pour que nous en échangions. Je vous dis merci et à bientôt pour un nouvel épisode de Redec. Redek.